Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Absolument.
Oui, alors est-ce que vous êtes en pleine préparation pour les festivités reliées à la mi-carême?
Mais je me sens très festif aujourd'hui. Et d'ailleurs, permettez-moi, Francine, d'être le premier à vous souhaiter une joyeuse mi-carême. C'est un peu tôt, vous allez me dire, je sais, c'est jeudi prochain techniquement. Mais le problème, c'est qu'à Natashquan, sur la Côte-Nord, ou dans la communauté acadienne de Chétiquan, sur l'île du Cap-Breton, on a fait de la mi-carême un festival qui débute ce week-end et dure toute la semaine, alors que sur l'île aux Grues, elle est déjà passée.
Ah.
On l'a fait en général coïncider avec la relâche scolaire, plutôt que se fier au calendrier. Donc, c'est difficile de savoir à quel moment se le souhaiter.
Bien, je vous remercie, Marcel. Ça me touche beaucoup. Vous serez probablement le seul, par exemple, à me souhaiter une mi-carême. Alors, c'est encore plus valorisant, je dirais.
Bien, j'espère que ça va lancer un mouvement, n'est-ce pas, que les gens vont envie de se le souhaiter, peut-être. On ne sait pas.
Alors, on en reparle la semaine prochaine. On vous écoute, donc, votre chronique aujourd'hui qui porte sur la mi-carême et les festivités d'autrefois, mais encore d'aujourd'hui, d'après ce qu'on comprend.
Oui, mais c'est une célébration qui a déjà été d'une grande importance au Canada français, même si on ne la retrouve aujourd'hui que dans quelques endroits, quelques communautés géographiquement relativement isolées. Mais on peut commencer en parlant du carême en lui-même. Déjà, il y a des chances que ça ne dise pas grand-chose aux plus jeunes de nos auditeurs et auditrices. Le carême, c'est une coutume qui remonte au concile de Laodicée, qui a eu lieu vers 364, la période entre le mercredi des cendres, qui a lieu 46 jours avant Pâques, et la Semaine Sainte, est une période de jeûne, d'abstinence et de mortification qui rappelle les 40 jours passés dans le désert par Jésus. Ça doit préparer les fidèles, tant physiquement que spirituellement, à la mort et la résurrection du Seigneur. L'application des contraintes du carême a beaucoup évolué avec le temps. Au 7e siècle, déjà, les chrétiens étaient invités à ne manger qu'un repas par jour, en soirée, ce qui n'est pas sans rappeler la pratique du ramadan musulman. Mais très tôt, on a eu envie de prendre une pause de cette longue période de privation qui survenait généralement en plein hiver ou à cheval entre l'hiver et le début du printemps, période où les divertissements sont rares et où les morales sont souvent bas. Ce serait donc une coutume française datant du Moyen Âge qui aurait traversé l'océan avec les colons français venus faire souche en Amérique. Mais il en est assez peu question dans les sources d'un côté ou l'autre de l'Atlantique avant le 19e siècle. Je suis tombé sur un article du journal La Patrie de 1881 qui racontait les mi-carêmes des années 1830 au Québec. Je vous en lis un extrait. C'est un peu long, mais ça nous résume bien l'esprit de la chose. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on y faisait? Il y a quelques 50 ans, la mi-carême était l'une des plus joyeuses fêtes canadiennes. Les familles se réunissaient chez l'ancêtre, les voisins se groupaient chez le doyen du canton, et depuis les jeunesses de 15 ans jusqu'au vert sexagénaire, tout au son d'un joyeux crin-crin, prenaient part tant bien que mal aux cotillons modernes ou aux menuets du temps passé. Bref, c'était une fête où l'on dansait en groupe. Tout se passait suivant les plus strictes règles de l'abstinence. Les personnes obligées au jeûne en bon catholique se privaient de souper pour jouir du réveillon qui se composait exclusivement de crêpes arrosées de sirop. La crêpe était le mets de rigueur, le mets consacré pour la mi-carême. Heureux si le carême tombait assez tard pour fêter en même temps l'apparition du sirop d'érable, alors la fête était complète. Tout à coup, rebondissement, la porte s'ouvrait violemment et les acclamations, les rires et les cris de terreur féminin éclataient en un charivari étourdissant. C'était les masques. 5 ou 6 jeunes gens des environs, souvent des convives même qui avaient trouvé le moyen de s'échapper un instant pour courir chez le voisin, faisaient irruption dans l'appartement déguisé, les hommes en femmes et les femmes en hommes. Alors les danses recommençaient avec un redoublement de gaieté et d'entrain, et cela durait jusqu'au 12e coup de minuit. À ce moment-là, tout le monde se mettait à genoux pour la prière. Le carême pouvait recommencer. La fête va se répandre aux 4 coins du Québec, au 19e et dans la première moitié du 20e siècle, mais surtout dans les régions rurales. Et la base de cette fête, c'est, comme le disait l'article, de se déguiser et de passer de porte en porte en essayant de ne pas se faire reconnaître.
Marcel, je m'excuse, oui. Pourquoi surtout dans les régions rurales?
J'ai pas trouvé d'explication par rapport à ça. C'était vraiment... On n'a pas semblé dire qu'à aucun moment ça s'était vraiment implanté dans les grandes villes, mais même, j'ai lu des textes écrits par des ethnologues, tout ça, qui ne semblaient pas vraiment fournir d'explications à ce phénomène-là. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir mieux répondre à votre question. Mais, par contre, le fait que ça se passait beaucoup dans des petites communautés rurales, ça présentait un défi additionnel, parce que tout le monde se connaît. C'était pas si facile de tromper ses voisins, d'où l'importance du déguisement, du masque, de changer sa démarche, de modifier sa voix. Les visites se terminaient généralement par de l'alcool. Il y avait parfois des débordements, ce qui explique probablement, à tout le moins en partie, que la fête a connu une popularité faite de pics et de vallées. La mi-carême, c'est donc une fête qui demande la préparation. Les costumes doivent être fabriqués d'avance, mais ça doit se faire en cercle fermé, évidemment. Si tout le village sait en quoi vous allez vous déguiser, ça ne vaut pas la peine de passer la mi-carême. Ils ont manigancé pour essayer de déjouer un tel ou une telle. Sans doute qu'on essaie de se tirer les verres du nez les uns les autres. Ça occupe les longues soirées d'hiver quand le soleil est couché à 5 heures. La fête a pris différentes formes selon les régions, selon les époques. Dans un article que j'ai consulté, on disait que ce défilé de maison en maison était l'affaire des hommes, surtout des jeunes gens non mariés qui profitaient de l'occasion pour aller visiter les filles, étant donné que les fréquentations étaient suspendues pendant le carême. Mais dans l'article de La Patrie que je vous lisais tout à l'heure, on disait que les hommes se déguisaient en femmes et les femmes en hommes.
Ouais.
Les règles n'étaient donc pas les mêmes partout. Autre article de La Patrie que j'ai trouvé beaucoup plus tardif, celui-là, datant de 1956, on nous parle de la mi-carême dans la région de Lillet, où déjà les festivités durent toute la semaine et où on défilait par groupe de 8 ou 10, un violonneux ou un accordéoniste parmi eux. Ils chantent et dansent dans les maisons et leurs costumes soignés font l'envie de tous. Les restaurants et les salles publiques sont les lieux les plus fréquentés. On s'y rassemble pour voir la mi-carême. Il en vient par centaines. Et dans le nord du lac Saint-Jean, au dernier jour de la mi-carême, on délaissait les costumes élaborés pour porter de simples draps blancs. C'était, comme on l'appelait, la soirée des fantômes. Les mi-carèmes pénètrent dans les maisons sans proférer un son et c'est presque un soir de terreur. Et ça, c'est un élément qui revient beaucoup. D'ailleurs, on essayait souvent de se faire peur à travers les festivités de la mi-carême. Et la mi-carême aussi, ça pouvait être un personnage, comme dans les communautés acadiennes de l'île du Prince-Édouard et du sud-est du Nouveau-Brunswick. La pratique est attestée dès la fin du 19e siècle, et on disait que la mi-carême, souvent une vieille femme, visite toutes les demeures pour s'enquérir de la conduite des enfants. À ceux qui sont obéissants, elle distribue des récompenses. En revanche, elle châtie les malins et parfois elle emporte avec elle ceux qui sont incorrigibles. Donc, c'est un genre de mélange entre le Père Noël et le bonhomme 7 heures, si vous voulez. Mais maintenant, la question. Qu'est-ce qui fait qu'une fête autrefois si populaire chez nous ne subsiste que dans 3 municipalités du Québec à l'heure actuelle? Ça semble être une combinaison de facteurs. La Seconde Guerre mondiale, où beaucoup d'hommes s'enrôlent ou quittent les campagnes pour aller vivre en ville, a eu un impact. Mais ça a probablement surtout à voir avec les changements sociaux qui s'opèrent dans les années 1960 et suivantes. La pratique religieuse diminue. Si on ne fait plus le carême, on n'a plus nécessairement envie de briser le carême, de prendre une pause de toutes ces mortifications-là. Mais même ceux et celles qui ont continué de fréquenter l'Église n'observaient plus un carême aussi sévère qu'autrefois. Il y a les habitudes de divertissement des Québécois et Québécoises qui ont beaucoup changé à cette période-là, notamment avec la généralisation de la télévision. Et on avait aussi probablement moins envie de se priver. Et ça, c'est une théorie personnelle. Mais dans bien des familles du Québec rural d'autrefois, à la fin de l'hiver, les réserves de nourriture datant des dernières récoltes commençaient à baisser. Plutôt que de se priver parce qu'on n'avait plus de quoi manger, mais on se privait pour gagner son ciel. Le timing était parfait. Dans les années 1960, c'est une période de prospérité. On est moins souvent confronté à un caveau à légumes presque vide dans une société de plus en plus urbanisée. La traite du carême et de la mi-carême était plus ce qu'il était autrefois. Mais ceci dit, Francine, je termine là-dessus. Si vous avez envie d'assister à une mi-carême comme on en faisait autrefois, ça existe encore, je le mentionnais tout à l'heure, dans 3 communautés au Québec. L'île aux Grues, Natashquan, et à Fatima, aux îles de la Madeleine, où on se déguise encore, où on passe encore de maison en maison. Évidemment, pour un touriste, c'est un peu plus difficile d'essayer de deviner qui est qui, mais on peut quand même prendre part à ces festivités-là.
Mais on peut se trouver un jeu quelconque, je sais pas, pour pouvoir être de la partie, comme on dit. Mais
Oui.
c'est intéressant quand même de vous écouter là-dessus, parce que on pensait toujours que c'était très, très religieux, hein, cet aspect de cette fête de mi-carême, mais finalement, on voit qu'il y avait
Ah ben,
beaucoup
les
d'autres
curés étaient contre,
sujets.
en
Ben
général.
oui, c'est
Ça
ça.
surprendra personne. S'amuser, déjà, ça, c'était
Oui.
en général opposé au concept.
Oui, mais notre perception, c'était souvent que c'était comme une pause dans ce carême.
Ben, c'en était une, mais où on faisait tout ce qu'il était interdit de faire pendant le carême. Et bon, je pense qu'en général, les religieux, on ne devait jamais prendre de pause. On était supposé faire comme le Seigneur, comme Jésus. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez envie de vous déguiser? Puis en plus, il y a des boissons enivrantes. Non, vraiment, c'était pas bien vu.
Ouais, je comprends. Bon, ben, en tout cas, c'est bien de voir que cette tradition-là, elle perdure.
C'est
Et
vrai.
peut-être que ça va s'étendre, le fait que vous en ayez parlé ce matin. On ne sait pas. C'est peut-être un mouvement mi-carême qu'on lance.
Bien, on le souhaite, honnêtement. J'aimerais
Oui.
ça voir ça à d'autres endroits, tout à fait.
L'an prochain, peut-être. Alors, merci, Marcel, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine!